Habemus Papam.
Premier pape français de l'histoire, Gerbert, devenu Sylvestre II, a surtout laissé le souvenir de ses légendaires relations avec le diable. Florence Tristram, historienne et auteure d'un ouvrage intitulé « Gerbert, le pape de l'an 1000 », nous rappelle le destin de ce moignon du Xe siècle, né en Auvergne, près d'Aurillac, et doté d'une exceptionnelle intelligence. C'est grâce à cette intelligence qu'il est envoyé en Espagne pour étudier, puis qu'il est remarqué par l'archevêque de Reims.
Abel Béron, qui était alors archevêque de Reims, l'a embauché, si je peux dire, comme écolâtre de l'école de Reims, qui était alors la plus célèbre d'Europe. Il a donc été écolâtre, c'est-à-dire le chef, dira-t-on, de l'école de Reims pendant plusieurs années.
Il est alors au cœur des affaires politiques de l'Europe de l'an 1000, et il côtoie tous les grands de l'époque.
C'est lui qui a enseigné, en quelque sorte, à tous ceux qui allaient devenir tous les princes et les rois de l'an 1000, dans toute l'Europe, aussi bien les Anglais que les Allemands, les Italiens, etc. En même temps, Gerbert était très connu des familles régnantes en Allemagne, la famille des Othons. Il a été en particulier le précepteur de Othon II, puis de Othon III. Et Adalbéron, avec l'aide de Gerbert, qui était donc son second, a participé très largement à la montée sur le trône du Capet, fondateur donc des dynasties qui vont régner sur la France jusqu'à la Révolution.
À la mort d'Adalbéron, Gerbert est élu à sa place comme archevêque de Reims.
C'était pour lui un formidable succès, mais le problème c'est que Gerbert ne sortait d'aucune famille brillante, n'avait personne pour le soutenir, il était seul avec son intelligence. Et donc son trône de Reims a été très contesté par les grandes familles, parce que c'était un poste extrêmement important, sinon le second poste après celui de roi. Et finalement, ses ennemis ont réussi à le faire chuter de son siège d'archevêque de Reims. À ce moment-là, il s'est réfugié auprès d'Othon III, qui était donc le troisième Othon, empereur d'Allemagne, qui avait été son élève et qui avait une grande admiration et une grande affection pour Gerbert.
En 998, à la mort de Grégoire V, le siège de la papauté se libère.
Othon III, qui régnait en maître sur l'Italie autant que sur l'Allemagne, a nommé Gerbert pape. Gerbert a pris le nom de Sylvestre II en souvenir de l'association en quelque sorte de l'empereur Constantin et de Sylvestre Ier. Rome en particulier et l'Italie en général étaient en pleine déliquescence, il n'y avait plus de pouvoir, c'était l'anarchie à peu près complète. Et donc il n'a pas été contesté quand il a été mis sur le trône de Saint-Pierre.
Othon III et Sylvestre II ont alors une grande ambition. Incroyable pour l'époque.
Othon III et Sylvestre avaient une très grande idée. Ils étaient très précurseurs pour l'époque et pour tous les siècles à venir. Cette idée était de faire l'Europe, d'unir l'Europe sous la couronne d'Othon III et de Sylvestre II et de la papauté, donc, en une Europe chrétienne où chaque pays garderait sa propre autonomie. C'était donc une idée grandiose.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un pape qui a pensé l'Europe ?
Ah oui, ça certainement. C'est certainement le premier pape qui a pensé l'Europe. Qui était une idée d'une Europe unie par l'esprit, par la religion, par une certaine puissance politique et militaire évidemment, mais dans l'autonomie des différents pays.
L'idée était toutefois de soumettre aussi à cette loi européenne la Hongrie et la Pologne, qui n'étaient pas encore des pays chrétiens.
Et c'est Sylvestre II qui a donc christianisé la Pologne et la Hongrie, avec l'aide évidemment des armées d'Othon III.
Mais Othon III meurt beaucoup trop tôt.
Othon III est mort très jeune, puisqu'il est mort à 23 ans, en 99. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas eu le temps de mettre en œuvre leur grande vision.
Contesté un temps après la mort d'Othon III, Sylvestre II parvient finalement à s'établir sur le siège de Saint-Pierre.
Sylvestre était un pape très aimé. C'était pas du tout un guerrier, lui. C'était pas du tout un violent, c'était pas du tout un guerrier. Il n'a jamais porté les armes, à la différence des autres princes de l'Église de l'époque. Il n'a jamais eu d'armée et il était très aimé du peuple de Rome, du petit peuple de Rome, et apprécié de tous les princes européens parce qu'ils étaient tous passés entre ses mains d'une part, donc tous le connaissaient, et d'autre part parce qu'ils savaient que c'était une intelligence tout à fait supérieure et qui ne les gênerait pas sur le plan de la politique. Donc après une petite période de contestation, il est resté sur le trône de Saint-Pierre, où il est mort dans le calme. Il est mort en 1003, donc peu de temps après la mort d'Othon. Ça a été la période la plus calme de sa vie, en quelque sorte, la papauté. Il a laissé un bon souvenir, parce que justement, il n'a pas fait de guerre, il n'a pas fait de violence, il a apaisé la ville de Rome. Au point de vue religion pure, Il a à peu près rien fait. Il n'a à peu près rien fait. Ce qu'il a laissé, en revanche, c'est une légende très tenace.
La légende, tout d'abord, d'une intelligence hors du commun.
C'est le plus grand esprit de son temps, mais c'est probablement un des plus grands esprits d'Europe qui ait jamais vécu. C'était un homme absolument remarquable d'intelligence, de culture. Il parlait la langue qui devait être à l'époque la langue d'oc, puisqu'il était né à Aurillac. Il parlait l'espagnol, l'italien, l'allemand, le français, le latin bien sûr, le grec bien sûr. Il avait appris l'hébreu. C'était un grand savant au point de vue scientifique, qui a donc ramené en Europe le chiffre arabe. À partir du XIIe siècle, toute la comptabilité de tout le monde s'est faite en chiffres arabes, en Europe. Et puis c'était un grand astronome. Il a créé beaucoup d'instruments scientifiques, des clepsydres pour mesurer le temps. Donc c'était un grand savant, c'était un grand intellectuel. Et c'était probablement un homme d'une remarquable intelligence.
Et quelques siècles plus tard, une autre légende va naître. La légende d'un pape ayant fait commerce avec le diable.
Après sa mort, on naît des légendes. Il a été confondu avec un certain Gerbert du XIIe siècle qui était un alchimiste, etc. Il a été confondu avec lui et il y a eu une espèce d'aura de maléfice et de diabolisation qui s'est placée sur l'image de Gerbert. Le pape de l'an 1000, c'était un pape ayant passé des contrats avec le diable, etc. Alors que c'était totalement faux à l'époque, la légende est née après. Elle s'explique d'une part par le millénarisme, tel qu'il n'a pas du tout été vécu à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'an 1000, personne ne savait que c'était l'an 1000, donc personne ne se souciait d'aucun millénarisme. Et à partir du XIIe siècle, il a commencé à y avoir des mouvements millénaristes qui ont parlé de l'an 1000 comme d'un siècle d'apocalypse. Et donc, on a prêté au pape des idées et des mouvements qui n'ont jamais été les siens.
C'était Florence Tristram, auteur d'un ouvrage sur Gerbert, le pape de l'an 1000, publié chez Le Regain Éditeur.